Le roman d'un brave homme, chapitre 14. La famille. Monsieur Casal, mon médecin, devenu mon ami, m'avait dit quelquefois dans les premiers temps de mon mariage « Je ne vous souhaite pas d'être père trop tôt ». Peut-être craignait-il que le goût de l'argent, surexcité par l'esprit de famille, étouffât peu à peu mes sentiments d'humanité et me rendît aussi dur que Monsieur Simoneau, et tant d'autres riches patrons. Le fait est que mon stage, infiniment trop long à mon gré, ne fut pas perdu pour tout le monde. Un homme sain d'esprit épargnera sans doute pour lui-même, mais il ne liardera jamais qu'au profit de ses héritiers directs. De 1855 à 1860, n'ayant que des collatéraux à pourvoir, je m'occupais pour ainsi dire exclusivement de ma grande famille ouvrière. J'organisais une société de secours mutuel et je la dotais. Je savais que dans le prolétariat, c'est le premier argent qui coûte. La caisse d'épargne de Courcy n'avait pas grand succès avec ses 4% d'intérêt. Elle ne servait guère qu'à receler les profits illicites des cuisinières. Je lui fis concurrence en empruntant les économies de nos ouvriers à un taux que la loi n'a prévu que pour l'interdire. Ces braves gens devinrent tous des usuriers sans le savoir, car ils prêtèrent à 10%. Peu m'importait de payer l'argent cher, puisque mon capital produisait au moins 10. D'ailleurs, l'essentiel était de rendre l'épargne attrayante. Une fois le pli pris, le petit capital ébauché, on peut laisser le prolétaire à lui-même. Il a le cœur bourgeois. Tous les chefs de famille que j'occupais chez moi assurèrent leur vie. Il m'en coûta une légère subvention, mais j'y gagnais encore, puisque les orphelins ne furent plus à la charge de la fabrique. Mon personnel largement payé, nourri et vêtu à bon compte, ne s'aperçut pas du renchérissement général. Ce fléau du Second Empire, attiré par la dépréciation de l'or et de l'argent, par l'achèvement des chemins de fer, par les grèves, passa près d'eux sans les toucher. Mais j'eus à lutter vaillamment contre le mal de l'agiotage, contre les placements aléatoires, contre ces abominables loteries à 25 centimes qui ont volé des millions aux pauvres et aux ignorants. Pour donner une satisfaction légitime à ce goût de l'aléa, cet amour de l'éventuel qu'on trouve au fond du cœur de tous les hommes, j'instituais les gratifications d'inventaire. C'était le partage inégal, mais équitable, d'un tantième de mes bénéfices entre mes collaborateurs. Les éléments essentiels de ce travail étaient la prospérité de l'usine et le mérite des parties prenantes. Toutefois, on faisait entrer en ligne de compte la situation personnelle du travailleur, et particulièrement ses charges de famille. J'associais ainsi la main-d'œuvre et le capital, le travail roulant et le travail consolidé. Mais je le faisais à titre purement gracieux, sans permettre à qui que ce fût de s'ingérer dans mes affaires et sans reconnaître aucun droit sur le gain à ceux qui n'avaient pas risqué la perte. Tout cela marchait à merveille, et Basset, mon grand conseiller, m'applaudissait de loin comme le modèle des patrons, lorsque j'eus enfin le bonheur d'être père. Pierre est né le 12 mai 1860, à 8 heures du matin, par une pluie battante. Je me vois encore, nu-tête, en pantoufles, courant comme un fou sous l'averse, de la maison au bureau, des bureaux au magasin, des magasins aux ateliers, des ateliers au four, et criant à qui voulait l'entendre, « Messieurs, mes amis, mes enfants, j'ai un fils. Oncle Joseph, vous avez un petit-neveu. Charles, tu as un petit-cousin. Victor, j'ai un fils. Venez tous que je vous montre mon fils. » Les employés me félicitèrent, la famille m'embrassa, les ouvriers poussèrent des vivas à n'en plus finir. « Vive Monsieur Dumont, vive Madame Dumont, vive le petit Dumont !» Un des plus vieux me dit en me serrant la main « Ma foi, patron, vous avez assez fait pour les autres, il était temps de penser à vous. » J'allais, Je vins, je courus ainsi pendant une heure, jetant à tous ces braves gens le trop-plein de ma joie, mais revenant sans cesse à la maison pour m'assurer que Barbe se portait bien et que l'enfant était toujours là. Pomponné par les mains de Catherine, il dormait sur mon oreiller, tout près de sa chère maman, qui ne me parut jamais plus jolie. Elle était rose, elle était fraîche, ses yeux brillaient. La voix seule semblait un peu languissante lorsqu'elle me disait « Papa, tu n'es pas raisonnable de courir ainsi sous la pluie. Tu veux donc enrhumer le père de mon enfant ?» Catherine me forçait de me changer. Le docteur me faisait asseoir, mais je ne tenais pas en place. J'aurais voulu être partout, et cependant je n'étais bien que là, au pied du lit. Nous trouvions tous que Pierre était énorme et qu'il devait peser très lourd. Monsieur Casal hochait la tête. « C'est un enfant comme les autres, ni gros ni petit, ni fort ni faible, mais bien bâti. On peut s'en contenter tel qu'il est. » « Il ressemble à son père, » disait Barbe. « Non, » répondais-je, « c'est tout ton portrait. Voyons, docteur. » « Vous n'y entendez rien, ni l'un ni l'autre, mes amis. Cet illustre héritier ressemble pour le moment à tous les jeunes messieurs de son âge. Il est sensiblement moins beau qu'un chat ou un chien nouveau-né, et il a l'air d'une cerise à l'eau-de-vie. » « Fi, l'horreur !» Oh, les illusions, tant paternelles que maternelles! Ma chérie, qui pensait à tout, me dit « Fais atteler le coupé. Il faut que tu ailles à l'aunée embrasser maman la France et nous l'amener si tu peux. Tu passeras par la mairie pour déclarer ton fils et tu annonceras la nouvelle à l'oncle Bernard. Entre au télégraphe et envoie une demi-douzaine de dépêches à nos autres parents. Je sais que tu n'oublieras ni Jean, ni les bons vieux des Martigues. Ce soir, tu écriras à Basset et à tous les amis. À propos, l'ancien maire qui t'a adopté au nom de la ville, Monsieur Morand, a droit à une visite. Le pauvre homme est cloué dans son fauteuil depuis bien des années. Raison de plus pour l'aller voir. » Quelle femme ! Elle ne songeait qu'au devoir et aux bienséances. Au lieu de se dorloter comme tant d'autres et de prendre un repos qu'elle avait bien gagné, elle travaillait, travaillait dans son infatigable petite tête. J'exécutais tous ses commandements de point en point et je suivis l'itinéraire qu'elle m'avait tracé, mais ce ne fut pas sans faire bien des crochets. La pluie avait cessé, on voyait quelques passants dans les rues de Courcy, et j'étais incapable de saluer tout simplement les visages de connaissance. Bon gré mal gré, il me fallait arrêter la voiture, sauter sur le pavé, raconter la nouvelle, embourser des compliments, échanger des poignées de main. L'homme heureux ne connaît pas d'indifférent, il ne rencontre que des amis. La maman du sommier, papetière, qui vendait des jouets d'enfants, me salua du seuil de sa boutique. Je m'arrêtai et je descendis. La bonne dame avait beaucoup connu ma mère, et elle m'embrassa comme autrefois lorsque je passais devant chez elle avec mes prix. En regardant du coin de l'œil les joujoux de toutes couleurs qui emplissaient son étroite maison, j'eus une idée. « Chère madame, lui dis-je, faites-moi le plaisir d'envoyer tout ce stock aux écoles primaires, moitié pour les garçons, moitié pour les filles. C'est Pierre, le petit, qui paie ainsi sa bienvenue à ses futurs concitoyens. Mon caissier réglera la facture sans marchander. » Le secrétaire de la mairie se chargea de transmettre au bureau de bienfaisance une somme très ronde pour les pauvres inscrits, et le brave monsieur Morand en accepta une autre, un peu plus forte, pour les pauvres honteux, qu'il assistait toujours secrètement en souvenir de sa longue magistrature. Je donnai à l'hôpital, à l'hospice des vieillards, aux détenus de la prison de ville. J'aurais voulu donner aux mauvais riches et aux avares, pour que tout le monde fût content. Avant de partir pour l'Aunay, je pris la route à gauche et je me fis arrêter devant le cimetière. La porte était fermée et le fossoyeur absent. Mais peu m'importait ce jour-là, j'avais des ailes. Je franchis la muraille, je courus à la tombe où mon père et ma mère dorment ensemble du grand sommeil, et je m'entretins longuement avec eux. Je promis à celui qui avait sauvé ma chère Barbe et à celle qui était morte pour moi d'élever leur petit-fils dans le culte de leur mémoire, dans le respect de leurs idées et la pratique de leurs vertus. » Maman La France, informée de l'événement par la rumeur publique, n'avait eu garde de m'attendre au gîte. Je la rencontrai à mi-chemin, au bas de la côte, juchée sur une botte de paille, dans la charrette de Laurent Dumoulin, l'homme à l'écrevisse, mon ancien camarade de Launay. Ce bon grand diable arrêta ses chevaux, enleva ma grand-mère à bout de bras et la porta dans ma voiture. Il ne voulut pas accepter le prix de son service. « C'est d'amitié, dit-il, et d'ailleurs on n'a pas tous les jours l'occasion d'embrasser un homme heureux. » Oui, j'étais bien heureux. Heureux jusqu'à l'affadissement, au malaise, à la pâmoison. En revoyant la vieille mère de nous tous, je fus comme assailli par une multitude confuse de souvenirs joyeux et tristes. Je pensais surtout à tous ceux qui manquaient à la fête après avoir tant peiné, tant lutté pour me faire ce que j'étais. Et les misères, les angoisses, les douleurs du passé contrastaient tellement avec la félicité présente que je me sentis défaillir. Maman La France devina ce que j'éprouvais, et elle n'imagina rien de mieux que de m'allonger un grand coup de fouet dans le côté le plus sensible. « Or ça, dit-elle, en route, il me tarde de voir Dumont. » Au fait, ce petit Pierre, avec sa tête grosse comme une orange d'un sou dans un bonnet de toile de Hollande, était l'aîné de ma maison, l'héritier du vieux nom plébéien, le chef d'une nouvelle famille. Je n'y avais, ma foi, pas songé. C'était la première fois qu'on me disait en un mot tant de choses sur son compte, et il me tardait de le voir sous son aspect nouveau. « Fouette cochée, allons voir si Dumont a passé une bonne journée. » Je le trouvais éveillé sur les genoux de sa nourrice sèche qui le gorgeait d'eau sucrée. Catherine fusillait de ses regards cette pauvre étrangère qui lui avait volé le petit. Mais il fallut que ma vieille bonne se fît une raison. Je ne plaisantais pas sur l'éducation. Je voulais que mon fils fût élevé par une Anglaise et qu'il apprît l'anglais en même temps que sa langue maternelle. Car je savais par mon expérience et par celle de l'ami Basset que dans l'ancien et le nouveau monde, un homme qui parle anglais en vaut deux. Maman La France était un peu scandalisée des libertés que la bonne Anglaise octroyait à son arrière-petit-fils. Abandonner ce corps frêle à lui-même, l'affranchir du maillot traditionnel, c'était vouloir sa mort. Ton père, ta tante, tes oncles ont été ficelés pendant au moins 6 mois, comme de vraies andouilles. Dis-moi si leur santé en a souffert, ou si leur caractère s'en est jamais ressenti. » Lorsqu'on promenait l'enfant au grand air dans le jardin de la fabrique, elle nous demandait si nous prenions à tâche de l'enrhumer. La digne femme poussait les hauts cris en voyant les repas de Barbe, et les bouillons, les verres de vin de Bordeaux, les biscuits qu'elle absorbait sans relâche entre le déjeuner et le dîner. « Grand-maman, répondait ma chérie, le premier devoir d'une nourrice est de se nourrir elle-même. C'est pourquoi je bois à ma soif et je mange à mon appétit. » Au bout de 15 jours de ce régime, la petite mère trottait comme une souris dans la chambre et l'enfant éclatait de santé. Alors, Maman La France, sans avouer que sa méthode n'était pas la meilleure, fut rassurée sur l'avenir de la famille et reprit le chemin de Launay pour voir si ses poules avaient bien pondu. Je la reconduisis moi-même et je m'assurai par mes yeux qu'elle était comme un coq en pâte dans sa vieille moitié de maison. Nous étions partis à 1 heure au sortir de table et mes chevaux avaient brûlé la route en 20 minutes. Cependant, elle me dit, avant de prendre place dans sa bergère, « Qu'est-ce que je vais t'offrir ?» L'hospitalité des campagnes. À l'heure où j'écris ces mémoires, Pierre, mon fils aîné, est à l'école polytechnique. Je ne voudrais pas l'exposer aux risées de ses camarades, en détaillant les souvenirs très chers que sa première enfance nous a laissés. Un sergent, car il l'est, et mon cœur paternel se gonfle à cette idée. Un sergent de l'école, par excellence, est presque un personnage. Ce serait peut-être entamer son prestige, écorner son auréole, dédorer son galon, que de raconter sa vie intime d'un an à cinq. Les bosses qu'elle se fit au front sur le tapis de la nurserie, malgré un bourrelet qui avait un faux air de couronne royale. L'escargot qu'il cueillit sur une haie et dévora tout vif, au grand effroi de la bonne anglaise, et le coup de bec qu'il reçut tout près de l'œil droit en voulant dénicher des œufs de dinde blanche. Tirons un voile sur ces événements. Oublions qu'il eut la rougeole avec son frère Jean, Saint-Cyrien de la dernière promotion, et qu'il me donna la coqueluche en dépit de Catherine qui répétait obstinément « C'est impossible, tu l'as eu en 1832 ». Contentez-vous de savoir qu'en 10 ans, ma femme me donna 2 fils et 2 filles, qu'elle les nourrit tous d'un lait riche et généreux, et que ce petit monde vint à bien. Les garçons, après avoir hésité quelque temps, prirent parti de me ressembler. Les filles se modelèrent d'emblée sur le type fantasque et charmant de leur mère. Elles étaient petites et brunettes, mais nullement ébouriffées. Ils étaient blonds, robustes et très grands pour leur âge. Tout ce petit monde s'aimait et nous aimait. On faisait de belles parties le matin en chemise longue sur mon grand lit, que le docteur Casal appelait leur champ de manœuvre. Je leur fis au second étage une grande salle d'études tendue de cartes géographiques, de dessins d'animaux, de tableaux instructifs et meublée de grandes armoires en chêne clair où ils avaient sous la main leur collection d'histoire naturelle, leurs pièces d'anatomie élémentaire, leurs microscopes et quelques autres instruments de physique. Enfin, les meilleurs livres des librairies Hachette et Hetzel. Leur gymnase était dans mon jardin. Quant à leur salle de récréation, c'était la fabrique. Lorsque les 2 bonnes anglaises et la Fräulein hanovrienne ne suffirent plus à la tâche, je fis venir comme renfort une ancienne maîtresse de pension, Madame Santeuil, et un jeune professeur de collège, Monsieur Évrard. Mais je n'abdiquai jamais mon droit de contrôle. Comme vieux lauréat, et surtout comme instituteur émérite, laissé pour mort au champ d'honneur, j'avais voix au chapitre. Le maître et la maîtresse m'écoutaient avec plus de déférence qu'un père de famille ordinaire, servi pour son argent. Je leur rendais leur politesse en égard et en prévenance, mais j'avais l'œil ouvert. Je proscrivais impitoyablement les légendes les plus accréditées, les hypothèses les plus commodes et les mensonges historiques les plus officiels. Le mot d'ordre de la petite classe était « ne rien enseigner aux enfants qu'on ne puisse prouver ou expliquer ». Persuadé que le travail assis est jusqu'à un certain âge un supplice inutile, je l'avais limité, même pour les garçons, à 2 séances d'une demi-heure au maximum. Mais ils étudiaient toute la journée, en regardant, en écoutant, en questionnant, et lorsqu'ils cessaient d'occuper leur esprit, c'était pour exercer leur corps. Pierre et Jean galopaient sur 2 jolis poneys des Landes. Ils tombaient quelquefois, mais adroitement, bien en dehors de leur monture, sans s'exposer aux coups de pied. Leur éducation morale était exclusivement réservée à la mère et à moi. Nous avions tout lieu d'espérer qu'ils ne seraient pas méchants, étant issus de nous, ni malhonnêtes, puisqu'il ne manquerait de rien. Mais je craignais la sotte vanité, si commune chez les enfants riches, le mépris des inférieurs, l'insolence qui fleurit en pleine terre autour des parvenus. Je ne me serais jamais consolée si mes garçons avaient été ce qu'on appelle des fils de famille. On ne pouvait pourtant pas leur crever les yeux pour leur cacher l'aisance de la maison, le luxe qui les entourait, l'autorité que nous exercions sur le peuple de la fabrique. Mais j'eus soin d'écarter tout ce qui ressemblait à de l'ostentation. Mes chevaux étaient bons, mais l'écurie n'était pas somptueuse. Nous avions des voitures simples, des harnais modestes, des serviteurs en petit nombre et sans livrée. Jamais on ne parlait d'argent en présence des enfants. Et lorsqu'ils en parlaient, lorsqu'ils lançaient une question indiscrète, on répondait invariablement « Papa travaille du matin au soir pour gagner sa vie et la vôtre. » Un jour que Pierre avait traité un domestique avec hauteur, je lui fis observer que moi, son père, je témoignais toujours la plus respectueuse amitié à Catherine.
« Bah !» reprit-il, « Catherine n'est pas domestique chez nous. »«
Eh bien, qu'est-ce qu'un domestique ?» Il se gratta la tête et finit par répondre « Dis-le-moi. » Un domestique est un ouvrier qu'on paye, au mois ou à l'année, pour faire dans la maison 5 ou 6 métiers très difficiles dont tu ne sais pas un seul. Et c'est seulement ce soir, à dîner, de changer une fois les assiettes. Il essaya, fit maladresse sur maladresse, cassa un peu, salit beaucoup et finit par demander grâce.
« Juge un peu, lui dis-je, si tu étais forcé de faire un lit, de frotter un parquet, de cirer les souliers, de brosser les habits, d'épousseter les meubles, de nettoyer les glaces et les carreaux, de passer les couteaux à la planche et l'argenterie à la peau, de laver la vaisselle et de faire la cuisine. Il y a pourtant 9 maisons bourgeoises sur 10 où ces diverses industries sont exercées par une seule personne, qui s'appelle « bonne à tout faire ». Justement, Catherine était bonne à tout faire chez mes parents. Elle savait même soigner les malades au péril de sa vie. Et c'est pourquoi je la respecte et l'aime de tout mon cœur. Mais les défauts des enfants ne se corrigent pas d'un seul coup. C'est un travail qui se fait par 1000 et 1000 retouches. À quelque temps de là, mon polisson me demanda à brûle-pourpoint devant plusieurs personnes. « Papa, les ouvriers, avec qui ça se marie-t-il ? » ?
« Avec qui, mon garçon ? Mais, par exemple, avec ta grand-mère ?»
Il ne comprenait pas, je poursuivis. « Oui, mon père était ouvrier, comme ceux que tu vois là-bas, lorsqu'il demanda et obtint la main de ma regrettée mère. »
« Et elle a bien voulu ? » ?»«
Serais-tu là, Nigo, si elle avait dit non ? » ?»« Heureusement pour toi et pour moi, elle a répondu oui. » Et d'autant plus volontiers qu'elle-même était fille d'un ouvrier. Mais moi aussi j'ai travaillé de mes mains. Il n'y a pas un atelier dans la fabrique où je n'ai retroussé mes manches comme apprenti d'abord, ensuite comme ouvrier et enfin comme contremaître.
Tu n'étais donc pas au collège ?
J'y avais été. Il ne répliqua plus, mais je vis bien qu'il lui restait un doute. Aussi, le lendemain matin, à 8 heures, je revêtis la blouse blanche et je l'invitai à me suivre. Il me fit observer que c'était l'heure de sa première leçon. « Tu n'y perdras rien, lui dis-je. C'est aussi une leçon que je vais te donner. » Je le menai tout droit à un des ateliers de tournage et je m'arrêtai avec lui devant un de nos plus vieux ouvriers, le père Garnet. « Mon cher Garnet, dis-je au bonhomme, « je vous présente mon fils Pierre. »«
Oh, je le connais bien, monsieur Dumont. »«
Peut-être un jour serez-vous son professeur, comme vous avez été le mien. »«
C'est pourtant vrai, monsieur Dumont, que je vous ai mis la main à la pâte. »
Tout en causant, il adaptait l'anse à un vase de l'usage le plus intime et le plus familier.
« Parbleu, lui dis-je, donnez-moi votre place et passez-moi une boulette. » « Je veux faire mes preuves devant ce petit monsieur et lui offrir un spécimen de mes talents. De cette façon, mon ami, tu ne te mettras pas au lit sans penser au métier de ton père. »
J'exécutai la pièce en maître et je l'envoyai au séchoir après l'avoir marqué de mon cachet. 2 jours après, le petit Pierre assista à la mise au four. Quand le biscuit fut refroidi, je le décorai de peinture, je l'émaillai moi-même et j'en fis quelque chose de très soigné. Nos tourangeaux s'amusaient fort de cette fantaisie rabelaisienne, mais Pierrot riait un peu jaune. Il eut son vase, il le garda, il s'habitua à répondre sans morgue et sans colère aux ouvriers qui lui demandaient en passant si le pot n'était pas cassé. En octobre 1869, il entra comme externe au collège. L'enseignement y était des plus médiocres, mais la camaraderie était bonne, comme dans toutes les écoles de l'État. Le petit homme se frotta, s'assouplit, émoussa peu à peu les angles de son caractère, et tout fut pour le mieux. Mais ma grand-mère, un jour que nous étions allés tous à Launay, le trouva pâle. Elle étendit sa critique à Jean et aux fillettes. « Tes enfants, me dit-elle, ne font pas de bonne viande. On voit qu'ils sont des citadins. Je dis plus, des nourrissons de manufacture. Tu leur fais prendre de l'exercice, c'est bien, mais ce n'est pas assez. L'ombre de tes bâtisses énormes pèse sur eux. Il manque à leur régime le bon air et surtout le grand air. Je te conseillerais de les laisser à Launay si j'avais 10 années de moins. Mais pourquoi n'achètes-tu pas près de la ville un petit bien de campagne? L'argent est peu de chose en comparaison de la force et de la santé. C'est ici que tu as fait provision de vigueur et tu y as acquis par-dessus le marché la science des champs qui en vaut bien une autre. À toi de réfléchir et d'aviser. » Elle avait raison, ma grand-mère. Raison, toujours raison, comme dit Figaro, ce drôle très humain. Barbe s'émut de son diagnostic. Elle opina qu'il fallait acheter ou louer n'importe quoi, une chaumière ou un château, mais plus tôt que plus tard. Ce fut un château qui s'offrit, car dans ce siècle très pratique, sur 100 propriétés de luxe, il y en a toujours 50 à vendre. Mon notaire, qui n'était pas M. Picheneau, car l'heureux époux de Caroline Baron avait levé le pied sans sa femme et ses 2 enfants. Mon honnête notaire, M. Lavore, me parla de l'Arcy, l'ancien domaine des Poulards. On avait tout vendu après la fuite du fameux député. Les fermes étaient morcelées et données de bon blé à 6 douzaines de paysans. Mais le château, le parc et un bout de réserve, en tout 60 hectares clos de murs, avaient souvent changé de main, sans trouver un propriétaire définitif. Le premier avait fait argent du mobilier et vendu les plus beaux arbres du parc. Le second avait exploité une carrière et il y avait perdu de l'argent. Le troisième avait habité bourgeoisement, mais il s'était bientôt aperçu que l'entretien des toitures, la réparation du mur d'enceinte, le ratissage des allées et l'impôt des portes et fenêtres absorbaient les 3/4 de son modeste revenu. Bref, ce pauvre Larcy était à vendre pour la 4e fois depuis 20 ans. Et dans le plus piteux état, le château délabré, les communs lézardés, les seaux de loup comblés, 20 brèches dans les murs, les pelouses envahies par la mousse, l'herbe a fauché dans les allées, la réserve en friche. Elle n'avait pas vu en 5 ans une voiture de fumier. Aussi, le dernier acquéreur était-il résigné à donner le tout pour un morceau de pain. 2 000 francs l'hectare, les bâtiments compris. Comme la station de Larcy n'est qu'à 17 minutes de la ville par les trains omnibus, il ne me fut pas malaisé d'étudier l'affaire sur place. Et je m'assurai par mes yeux que le mal était plus apparent que réel. Le château, d'un bon style, construit sous Louis XVI en matériaux de premier choix, pouvait se restaurer à bon compte. Les communs, bâtis en léger, étaient plus malades, mais réparés légèrement, comme on les avait fait, ils donneraient sans grande dépense une écurie de 10 chevaux, une remise de 10 voitures, les chambres de 10 domestiques, c'est-à-dire 2 ou 3 fois plus de couverts qu'il ne nous en fallait. Quelques journées de terrassiers et de maçons rétabliraient la clôture, dont les grilles étaient solides et splendides. La herse et le guano remettraient les pelouses en bon état. Une brouette sarcloire et quelques tombereaux de gravier feraient reparaître les allées. Quant à la ferme, il suffirait de 10 bœufs et de 200 moutons pour réveiller sa fécondité endormie. Au demeurant, la cognée des Vandales avait oublié de beaux chênes dans les massifs. Les taillis avaient repoussé, les pièces d'eau restaient parfaitement étanches dans leur béton bordé de pierre. La petite rivière courait, fraîche et limpide, entre 2 rangées d'iris jaunes sur les cailloux argentés. Le potager manquait de fruits, de fleurs et de légumes, c'est-à-dire de tout. L'orangerie était déserte, et les deux serres, la chaude et la tempérée, avaient cela de commun qu'elles étaient également vides. Mais j'estimais, en père de famille, qu'une 30 000 francs, sagement employés, raccommoderaient tout. Là-dessus, je repris le train, je passai chez maître Lavore, je l'invitai à payer au plus tôt 120 000 francs avec les frais, et je rentrai en disant à ma femme « Embrasse le nouveau seigneur de Larcy ». Savez-vous ce qu'elle me répondit ? « Je t'adore !» Il n'y a cependant aucune corrélation entre l'achat d'un domaine rural et les sentiments légitimes d'une femme pour son mari. Barbe vint avec moi prendre possession de ses terres. Elle me donna des conseils et dirigea les premiers travaux, car nous nous étions empressés de mettre l'entrepreneur en campagne. Je tombai, de fortune, sur un gaillard actif. Il ne possédait pas un sou vaillant et subsistait au jour le jour sur mes avances. Mais il avait le diable au corps. Aussi est-il devenu presque riche en moins de 10 ans. Aussitôt après les grands froids, qui ne sont jamais bien terribles dans nos pays, il jeta du monde partout, dans le château, dans les communs, dans les allées, dans la petite ferme, à la clôture. Larcy ne fut qu'un immense chantier. Les terrassiers et les maçons couchaient littéralement sur la brèche. Les couvreurs arrivèrent bientôt. Les peintres, vitriers et colleurs de papier emboîtèrent le pas. Bref, nous étions chez nous le 1er juin. Petitement meublé, car le tapissier de Villevieille ne m'avait pas tenu parole. Mais campés à la bonne franquette, dans des appartements où l'on se perdait quelquefois. Tous les matins, à 7h30, je prenais le train avec Pierre. Il allait au collège et moi à la fabrique. Nous déjeunions ensemble, en garçon, servis par Catherine, qui s'était elle-même constituée gardienne du logis. La journée faite, l'enfant me retrouvait à la gare. Barbe, Jean, Geneviève et Pauline nous attendaient à la station ou à la principale grille du parc. On s'embrassait à la ronde et on allait dîner au grand air si le temps était beau, tantôt ici, tantôt là, selon le caprice de ma femme. Elle variait nos plaisirs et donnait à chacun de nos repas le charme et l'imprévu d'une partie de campagne. Pauline était toujours de la fête, quoiqu'elle eût à peine 18 mois. Tous nos enfants ont dîné à table dès qu'ils ont pu se tenir sur une chaise haute. Cette coutume entraîne un supplément de blanchissage, mais la santé et l'éducation rachètent bien ce qu'il en peut coûter. Un beau soir de juillet 1870, Pierre, qui venait de composer pour les prix, me dit en montant en wagon « Papa, est-ce vrai ce que l'on raconte au collège ? Nous allons déclarer la guerre aux Prussiens ?» Je confessai sans aucune honte que je n'en savais rien, n'ayant pas ouvert un journal depuis 15 jours ou 1 mois. La politique était ma bête noire. Comment aurais-je pu lui pardonner la mort ou l'exil de mes plus chers amis ? La souveraineté nationale, confisquée violemment par un homme et stupidement abdiquée par les 3/4 des électeurs, n'était plus qu'un mot vide de sens. Aussi m'étais-je toujours abstenu de faire acte de citoyen. Pourquoi voter lorsque le candidat officiel était élu d'avance ? Je ne savais pas si les urnes étaient de marbre, de bronze ou de bois. Aux élections de 1809, lorsque l'esprit public commença à se réveiller, l'Union libérale du département voulut opposer ma candidature à celle du gros Taillemont. Je répondis au président « Cher monsieur, je fais de la faïence et non de la politique. Je ne suis pas citoyen de Courcy, mais de Faenza. » J'avais tort, et grand tort. Que celui qui ne s'est jamais trompé sur ses devoirs de français me jette la première pierre. J'avouerai, pendant que j'y suis, que les questions de guerre et de paix me laissaient généralement calme. J'avais suivi avec un intérêt assez vif la campagne d'Italie, parce que, si la France est notre mère, l'Italie est la grand-maman. Encore avais-je été déçu et écœuré par le traité de Villafranca. Mais que l'on fit tuer nos soldats en Crimée pour les Turcs, en Chine pour les Anglais, au Mexique pour un banquier suisse ou pour un archiduc d'Autriche, voilà ce qui ne faisait pas vibrer en moi la fibre patriotique. Et cette sempiternelle campagne d'Algérie, cette pluie d'or et de sang tombée sans interruption depuis 40 ans sur une terre où nous n'avons jamais récolté que de la graine d'épinard. C'est ainsi que j'envisageais les aventures militaires du gouvernement impérial. Je n'y voyais qu'un jeu brillant, joué par une ambition dynastique qui engageait la partie en notre nom, la gagnait pour notre compte et nous forçait ensuite à payer. Lorsque Pierre me raconta les bruits qui circulaient dans la cour du collège, l'outrage fait par le roi de Prusse à notre ambassadeur, l'indignation soulevée au corps législatif et l'imminence d'une nouvelle campagne, je haussai les épaules en homme que cela n'émeut guère, et je dis à l'enfant « C'est bien simple, l'armée française est invincible, elle battra les Prussiens, elle ira à Berlin, on signera la paix, et notre dette s'augmentera d'un milliard, dont nous aurons la rente à payer, moi d'abord, toi ensuite, et tous nos descendants jusqu'à la fin des siècles. » Il fallait être un grand génie, avoir le coup d'œil de Monsieur Thiers, pour risquer une autre hypothèse. Les hommes de simple bon sens, comme moi, croyaient aveuglément à la supériorité de nos généraux, de nos soldats, de nos canons, de nos fusils, de nos mitrailleuses. Mon beau-frère, Jean Bonafigue, qui n'était pas un sot, prétendait que rien ne résiste à la furie française. « Placez-moi, disait-il, avec ma compagnie devant une batterie de canons aussi perfectionnée qu'on voudra. Je n'aurai que 3 mots à dire. À la fourchette. » Ils s'élancent au pas gymnastique, baïonnettes en avant, embrochent les servants sur leurs pièces, enclouent les canons ou les retournent contre l'ennemi et le tour est joué. Pas plus difficile que ça. Pauvre garçon. Il le disait parce qu'il le croyait, et il le croyait parce qu'il l'avait vu de ses yeux, plutôt 2 fois qu'une. Sa confiance était partagée par toute la famille. Barbe doutait si peu de la victoire qu'en écoutant les nouvelles que nous lui apportions, elle battit des mains et s'écria « Quel bonheur ! Il y aura peut-être enfin de l'avancement pour mon pauvre frère !» Il venait seulement de passer capitaine à 40 ans. Les leçons de mon père, ce citoyen du monde, et surtout mon voyage autour de l'Europe, avaient tué en moi le patriotisme exclusif du grand-papa la France. L'ennemi était à mes yeux un être de raison, un pur fantôme. On pouvait en médire à satiété. Je souriais, je n'y croyais plus. Les Anglais que j'avais pratiqués dans leur île riante et largement hospitalière avaient mon estime et ma sympathie. Je gardais le plus tendre souvenir aux loyaux scandinaves de la Suède et du Danemark. Les Russes étaient charmants, les Autrichiens pleins d'esprit et de bonne grâce, les Magyars admirables dans leur noblesse et leur fierté, les Roumains de vrais Français égarés sur le Danube. Je pardonnais aux Turcs un peu de fanatisme, racheté par beaucoup de courage et d'honneur. J'aimais les Grecs pour leur ambition, peut-être folle, mais sublime. Les Italiens pour ce prodigieux bon sens qui s'élève chez eux à la hauteur du génie. Les Espagnols pour la grandeur des sentiments, la magnificence du langage et l'esprit subtil qui pétille en bons mots dans leurs discours familiers. J'avais trouvé en Portugal un grand peuple logé à l'étroit. La bonhomie solide et cordiale des Hollandais m'avait pris par le cœur. Je goûtais fort l'ingénieuse activité de nos frères belges et ce courant d'idées libérales qui circulent en tous sens à travers leur riche pays. Pour ce qui est des Allemands du Nord, ils m'avaient quelquefois éprouvé par de grosses faillites, mais je ne les estimais que plus. Leur seul défaut, à mon avis, était une candeur maladive. Je ne sais quel excès de tendresse et de confiance, la culture de la petite fleur bleue poussée un peu trop loin. J'avais bien entendu parler du comte de Bismarck, qui n'avait pas précisément les allures d'un berger d'Arcadie. Mais, à l'annonce de cette guerre, ce n'est pas le terrible homme d'État, le diplomate cuirassé qui me préoccupait. Je pensais surtout à sa petite sœur allemande, à la blonde, à la chaste, à la timide et rougissante Gretchen. Pauvre enfant, que deviendrait-elle entre les mains victorieuses de nos Zouaves et de nos Turcos? J'avais la mémoire hantée par certains souvenirs historiques. La campagne de Turenne, dans le Palatinat, me donnait de vrais cauchemars. Je me représentais une petite villa de ma connaissance, envahie par les soldats d'Afrique, noirs ou tannés. La digne mère est à son bas, qu'elle tricote, le respectable père à sa bière, qu'il sirote, et l'ange du foyer à son piano, qu'il tapote. Que vont-ils devenir, ces innocents, ces malheureux? Le 5 août, les dépêches de Wissembourg détournèrent le cours de mes idées. Je pensais pour la première fois aux maisons de l'Alsace française, violées par le soudard allemand. C'était la même chose, à peu près. Seulement, c'était le contraire, et ce qui me semblait regrettable 24 heures plus tôt me paraissait indigne, infâme, odieux, intolérable. La face et le revers de la médaille sont deux, quoique frappés dans le même disque de métal. Nos désastres se succédèrent pendant tout le mois d'août comme des coups de foudre dans une nuit d'orage. Il y en eut de bien glorieux, par exemple la bataille de Gravelotte, mais la gloire n'est pas le salut. On ne pouvait plus guère ignorer que notre armée était vaincue, et, s'il était encore permis de compter sur un retour de la fortune, je n'avais pas le droit de me dissimuler à moi-même le fait certain, cruel, humiliant, l'invasion. L'ennemi commandait en maître dans nos départements de l'Est. Des armées allemandes foulaient insolemment le sol sacré que mon grand-père avait défendu les armes à la main et arrosé de son sang. Le triste jour, 100 fois prédit par le vieux patriote, était venu. N'avais-je rien à faire? Je repassais dans mon esprit les exhortations du vieillard, ses volontés dernières, mes promesses formelles, l'engagement qu'il avait pris en mon nom et qui restait gravé sur sa tombe. Il est vrai que je n'étais plus un jeune homme, j'avais 44 ans, mais mon grand-père en avait 42 lorsqu'il partit en 1814 pour combattre les Alliés. D'ailleurs, j'étais encore svelte et aussi robuste que jamais. Pas une infirmité à alléguer, aucun cas de réforme. Ma qualité de père de famille était-elle un cas d'exemption? Oui, sans doute, aux yeux de la loi. Mais non pas au gré du brave homme qui s'était enfui de Launay en laissant 6 enfants à la maison et 2 écus de 5 francs dans l'armoire. Quoi qu'il advint de moi, j'étais sûre que mon petit monde serait à l'abri du besoin. Cependant, j'hésitais encore. Je demeurais longtemps indécis. Comme la plupart des Français sous l'Empire, je m'étais désintéressé peu à peu de la chose publique. L'homme qui disposait en maître absolu de nos droits, de nos ressources et de nos forces, et qui garantissait en échange notre repos et notre prospérité, était le seul auteur de cette guerre. Ne devait-il pas la mener à bonne fin sous sa responsabilité personnelle, avec l'armée qu'il avait organisée à sa guise et les moyens d'action que nous ne lui avions pas marchandés? Je ne vous donne pas ce raisonnement pour très bon ni surtout pour très héroïque. Mais, hélas, des millions de Français valides l'ont fait en même temps que moi. Que d'hommes en état de porter les armes se sont dit, entre le 15 juillet et le 1er septembre 1870, « C'est la querelle de Guillaume et de Napoléon qu'ils la vident ensemble !» L'irréparable catastrophe de Sedan et la chute piteuse de l'Empire ont dissipé les incertitudes et mis les mauvaises raisons à néant. Il n'est resté que 2 nations en présence, mais 2 nations dont l'une avait déjà malheureusement un avantage marqué sur l'autre. Le 4 septembre, au matin, en apprenant la funeste nouvelle, je pris mon parti. Le 5, le 6 et le 7, les habitants de Courcy firent leur petite révolution à l'exemple de Paris. Et j'eus trop d'affaires chez moi pour songer à quitter la place. Il nous tomba du ciel un sous-préfet inespéré dans la personne de mon ancien camarade Auguste Poulard. Après le licenciement de la garde mobile, il avait été soldat en Afrique, journaliste au Quartier Latin, secrétaire d'un écrivain poussif, le savant M. Carbezière, et de temps en temps maître d'études. La destinée capricieuse l'avait nourri de truffes quelquefois, fréquemment de pommes de terre frites, en le faisant jeûner plus souvent qu'à son tour. Au milieu de ses vicissitudes, il était resté gai, franc du collier et scrupuleusement honnête, fuyant la bohème comme le feu et craignant d'emprunter 2 sous pour son tabac. « Attendu, disait-il, que c'est assez d'un insolvable par famille. » Sous le ministère Olivier, il avait publié, avec l'argent d'un jeune valaque, un journal littéraire où l'on ne faisait que de la politique. Et sa petite campagne contre le plébiscite du 8 mai n'avait manqué ni d'esprit ni de courage. C'est pourquoi, dans la soirée du 4 septembre, un ancien ami du club des conspirateurs, parvenu à un poste secondaire, mais important, au ministère de la place Beauvau, le fit prendre dans son galetas, lui offrit la sous-préfecture, l'envoya se vêtir de neuf et lui glissa dans une poignée de main un billet de 1 000 francs qui ne sortait pas du trésor. Le bon Auguste, un peu vieilli par les secousses de la vie, mais encore solide et décidé à bien faire, nous arriva comme un sauveur. On cassait des carreaux, on décrochait des enseignes, les jeunes fous rossaient de guet sous l'uniforme de 4 malheureux agents de police, et les ouvriers de la fabrique avaient la prétention de m'installer à la mairie malgré moi. Ce qui était plus grave, on cherchait Martin Sec, notre affreux commissaire, pour lui faire expier ses méfaits de décembre 1851. Et l'on finit par le trouver au fond d'une alcôve chez Madame Mousse. Hélas, oui, chez la vieille modiste hospitalière dont j'avais fréquenté la maison, du temps que j'étais jeune et badouillard. Mon nouveau sous-préfet paya de sa personne. Il n'avait aucune raison de s'intéresser à ce drôle, mais il ne devait pas tolérer le désordre et la violence. Il fit prendre les armes à la garde nationale, releva le moral des agents, prit le commissaire au collet en lui disant à l'oreille « Laisse-toi faire, animal, je te sauve la vie !» Et il le mit en sûreté dans la prison de ville, sous la garde de 4 citoyens résolus. Malheureusement, le Martin était tellement effaré qu'il se fit justice lui-même. En lui apportant un dîner, on le trouva pendu à un barreau par sa cravate et ses bretelles. À part cet accident, qui fit couler fort peu de larmes, tout alla bien désormais dans notre chère petite ville, et Auguste Poulard put se livrer sans distraction à la levée des mobilisés, selon le vœu du gouvernement de la Défense nationale. Quoique l'élément civil, découragé par les défaites successives de nos soldats, eut besoin d'être galvanisé, les Tourangeaux s'en allaient au dépôt ou au camp d'instruction sans se faire tirer l'oreille. Des hommes mûrs et des adolescents imberbes s'engageaient pour la durée de la guerre. Tous les célibataires de la famille Dumont, mes cousins, mes neveux à la mode de Bretagne, étaient sous les armes. Déjà, même le pauvre Victor venait d'arriver à Coblenz. Parti avant nous tous, il avait été pris avec 80 000 autres dans la souricière de Sedan. Au risque d'aller le rejoindre, je faisais mes paquets en grand mystère. J'avais choisi ma garnison. C'était Belfort, où mon beau-frère Jean commandait une compagnie du 4e bataillon au 84e de ligne. Mes voyages quotidiens à Courcy rendaient la fraude assez facile. Barbe ne savait rien de mes projets. Rien de mes arrangements. Je comptais lui brûler la politesse et partir à l'anglaise, le 20 septembre, par le train express de midi, en jetant une lettre d'adieu à la poste. Tout marcha bien jusqu'au jour que j'avais fixé. Mais lorsque je sortis du lit à 6h30, Barbe, qui d'habitude se levait après moi, sauta dans ses pantoufles et me dit « À nous deux, j'espère que tu n'as pas la prétention de me cacher tes pas et démarches. Ce serait la première fois. Mon ami, je sais où tu vas. Les bons maris, et tu en es un, n'ont pas de secret pour leurs femmes. Quand même, ils ne leur disent rien. Depuis un mois, je suis la confidente de tes aspirations, de tes incertitudes, de ta résolution définitive. Tu n'as jamais rêvé tout haut, mais nous dormons assez près l'un de l'autre, mon bien-aimé, pour que je lise à livre ouvert dans le fond de ton cœur. Vous vous imaginez, vous autres, qu'en fermant la bouche et les yeux, vous passez à l'état de coffre-fort. Que vous êtes donc jeune. Mais rien qu'à la façon dont tu as embrassé nos enfants hier soir, j'ai deviné que c'était pour aujourd'hui. N'essaie pas de mentir. À quoi bon? Tu n'en es pas capable, mon Pierrot. Je t'assure que tu es transparent, au moins pour moi, comme un homme de verre. Je sais ce qui te pousse et ce qui te retient. J'ai noté la minute où un argument décisif a fait pencher la balance. Veux-tu que je te dise non seulement ce que tu vas faire, mais encore où tu vas? Tu vas rejoindre mon frère au fort des Barres, sous Belfort. Est-ce vrai? J'étais si bien clouée par la stupéfaction que je trouvais à peine assez d'esprit pour lui répondre. Eh bien, soit, c'est la vérité. Mais si tu voyais tout, et si tu ne m'as pas arrêtée à moitié chemin, tu m'approuves, ou du moins, tu me pardonnes. Elle m'attira vers elle, me fit asseoir au pied de notre lit, prit mes mains dans les siennes, fixa ses beaux yeux sur les miens, et me parla avec une tendresse grave, presque solennelle. « Mon cher mari, je ne suis qu'une femme, mais je suis une Française. J'ai appris à aimer la patrie en t'aimant. Ton pauvre grand-père m'a fait comprendre qu'elle devait m'être aussi chère, et s'il se peut, plus chère encore que toi. Tu n'as jamais oublié ces leçons d'un vrai citoyen, ni moi non plus, Pierre. » On ne pardonne pas à l'homme qui fait son devoir. On ne le félicite même pas. On lui dit « Tu as pris le bon chemin, marche. » Si j'essayais de te persuader, au moment d'une telle séparation, que je suis contente ou tranquille, tu ne me croirais pas. Et tu aurais raison. J'ai peur. Comme tu auras peur la première fois que les obus allemands éclateront autour de toi. Mais je fais ce que tu feras alors, mon bien-aimé. Je tiens bon. Notre cause est juste. Elle est sainte. Elle est de celles pour lesquelles il serait également beau de vaincre ou de mourir. Serre-la donc de tout ton courage. Si tu reviens, comme j'en ai le ferme espoir, je t'aimerai plus qu'autrefois, ce qui sera un joli tour de force. Si tu ne reviens pas, je ferai quelque chose de plus fort et de plus méritoire. Je vivrai pour élever nos enfants dans l'admiration de leur père, dans l'amour du pays et le culte de la liberté. Sommes-nous d'accord? Oui, alors va-t'en. Épargnons-nous l'un à l'autre les attendrissements qui cassent bras et jambes. Tu as besoin de toutes tes forces, mon grand soldat, et moi aussi. Je jure de ne pas verser une larme avant 5:30. Elle assista sans sourciller à ma toilette, vint avec moi embrasser nos filles dans leur chambre, tira les oreilles des garçons qui cueillaient des champignons sous les chênes du parc, et me conduisit au chemin de fer en me donnant de vive voix quelques petites commissions pour son frère. À la dernière minute, elle fut bien tentée de me suivre plus loin, et de pousser jusqu'à Courcy. Mais elle ne se sentit pas assez sûre d'elle, ou peut-être de moi. Et après m'avoir appliqué sur les joues deux bons gros baisers de nourrice, elle s'enfuit et disparut. À la fabrique, je mandai tous les chefs de service l'un après l'autre, et sans leur faire mes confidences, je parlais d'un voyage assez long, d'une régence possible, des pleins pouvoirs que la patronne prendrait en main le cas échéant. Le travail marchait assez bien, quoique la guerre nous eût enlevé les hommes les plus valides. Notre population ouvrière était presque réduite aux vieillards, aux femmes et aux enfants. Mais les commandes venaient toujours, les matières premières ne manquaient pas, le bassin de l'Allier nous donnait du charbon en abondance. Les transports seuls n'étaient plus ni très réguliers, ni très sûrs. Catherine me servit à déjeuner la côtelette inévitable après les œufs brouillés de rigueur. Je lui annonçai le retour de la famille et je lui recommandai mes enfants, ce qui la faisait toujours rire, car mes enfants étaient à elle autant et plus qu'à moi. Mes mâles m'avaient précédé à la gare, je m'y rendis en promeneur. Je pris mon billet pour Lyon, Paris était bloqué depuis la veille, et je me promenai sur le quai en attendant le train, qui avait 3 quarts d'heure de retard. Cet express avait un faux air de train de marchandises. Il transportait plus de munitions et d'approvisionnements militaires que de voyageurs. À l'appel des employés, « Courcy, 5 minutes d'arrêt !» Un seul wagon s'ouvrit, et j'en vis sauter un gros homme de 70 ans, tout blanc de barbe et de cheveux, mais joliment ingambe pour son âge et son embonpoint. Il tenait son billet à la main et s'élançait vers la sortie avec tant d'impétuosité qu'il me heurta au passage. Je le pris par l'épaule en l'appelant brutal. Il me sauta au cou en m'appelant « Pierre, cher Pierre !» et je l'embrassai en pleurant. C'était Bassé. « Où vas-tu ? » me demanda-t-il. « À la frontière, et toi ?»«
Moi aussi, mais après t'avoir vu. Et puisque je te tiens, je ne te quitte pas. En route. »
« Mais ton billet, je paierai en arrivant. »
« Et tes bagages ? » ?»«
Je n'en ai pas. Nous autres Américains, nous voyageons les mains dans nos poches. » Il monta en wagon avec moi, et j'eus le temps de l'examiner des pieds à la tête. L'âge ne l'avait pas visiblement fatigué. Sa personne, un peu épaissie, mais solide et compacte, semblait faite d'os et de muscles. L'œil scintillait sous le sourcil blanc, les dents brillaient sous la moustache de neige. Le teint uniformément coloré indiquait un tempérament sanguin, bronzé par la vie au grand air. Les cheveux coupés ras formaient une brosse touffue. La barbe, courte et claire sur les joues, se terminait en longue pointe comme celle d'un bouc. Une casquette de drap gris à visière de cuir verni, un vêtement complet, couleur de poussière, des souliers lacés de cuir jaune, à semelles épaisses et larges, une chemise de flanelle et un faux col de percale composaient tout son accoutrement. Une sacoche de maroquin noir lui tenait lieu de bagage. « Nous autres, Américains, disait-il. Nous jetons notre linge quand il est sale et nous le remplaçons par du neuf. C'est une économie de blanchissage. »
« Ah ça, décidément, tu l'es donc, citoyen d'Amérique ?»«
Non, mon cher, impossible. Je n'avais qu'un papier à signer, la chose était faite. J'ai essayé 10 fois, 20 fois, 100 fois. La plume m'est toujours tombée des mains. Tu n'imagines pas à quel point cette bêtise ou plutôt cette infirmité m'exaspérait. J'étais furieux contre moi-même. Maintenant...
Maintenant ?
Eh bien, oui, maintenant, j'aime autant ça. S'il est écrit que messieurs les Allemands me casseront les os, les morceaux en seront français. »